Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Je suis pas venu dans le cinéma pour ma cinéphilie, mais plus par mon amour de fabriquer des vidéos. On pensait vraiment pas que nos contenus allaient trouver une audience, parce que ce qu'on observait, c'était surtout des vidéos humoristiques qui performaient sur les plateformes.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
On essaie de garder cette fraîcheur à chaque nouveau 48 heures, parce que quand tu commences à être récompensé pour un, après tu dis oh, « faut qu'on soit à la hauteur, tu vois, de ce qu'on a déjà fait ». Et non, on se disait « venez, on le fait pour se marrer, quoi, on le fait pour nous, pour s'amuser et tout ».
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Putain, moteur !
Salut Guillaume, merci
Salut,
d'avoir
Jonathan.
Accepté notre invitation.
Ben, merci à toi.
Ça fait plaisir de t'avoir. On te connaît sur Internet pour ta chaîne Rouge Vert Bleu, démarrée il y a 8 ans maintenant. Tu y as publié de nombreux tutoriels de réalisation, mais aussi des interviews autour du monde de la production audiovisuelle. Mais on te connaît aussi pour le trio Les Parasites que tu as cofondé et avec lequel vous avez participé et gagné un nombre conséquent de 48 heures film project. Vous avez aussi produit de nombreux courts-métrages et réalisé la série L'Effondrement qui a été diffusée sur Canal+ en 2019. Mais on te connaît aussi pour l'Atelier 7, une résidence de création audiovisuelle basée sur le fonctionnement d'une école démocratique, ou encore ton dernier projet 48 heures théâtre, dans lequel tu adaptes le concept du 48 heures film project au monde du théâtre. C'est difficile de faire tenir toute la liste de tes projets, assez conséquente, c'est génial. Mais alors du coup, comment tu te définirais aujourd'hui?
Ouais, bonne question. J'ai mis du temps avant d'accepter de dire que j'étais auteur-réalisateur. J'ai l'impression que depuis que j'ai pu faire un truc pour Canal+, je me dis « Ah, c'est bon, là, j'ai vraiment été payé en tant qu'auteur et en tant que réalisateur, donc je peux le dire. » Mais maintenant, ouais, j'hésite plus non plus à dire producteur, auteur-réalisateur. Ouais. Dans le sens où, en fait, toutes les personnes qui viennent d'Internet, enfin, tous les vidéastes qui produisent du contenu en ligne, en fait, sont producteurs de leur propre contenu. Enfin, même si c'est de l'autoprod ou quoi, ils savent fabriquer, ils savent monter des équipes et tout, donc ils sont producteurs. Limite, ils savent financer même leur contenu. Donc,
ouais, c'est une multi-casquette, quoi.
Ouais,
c'est...
donc, ouais, producteur, auteur réel.
Ok, super. Et alors, donc, du coup, pour revenir un peu à tes débuts, si on revient quelques années en arrière, toi, tu as commencé par une école d'audiovisuel, c'est ça?
Ouais, bah, si on remonte vraiment en arrière, j'ai commencé petit, je dis que j'ai fait mon premier court-métrage à 11 ans, et puis après ça a été un peu une suite logique, mais j'appelais même pas ça un court-métrage à l'époque, c'est vraiment des vidéos pour s'amuser.
Les
quoi,
premiers
mais...
essais, quoi.
Ouais, ouais, et puis en fait ça a été un peu une suite logique, lycée avec option audiovisuelle, et on a fait une école de réal en 3 ans, et puis voilà, mais surtout apprentissage en faisant, quoi.
Ouais. Et c'est du coup à la sortie de cette école-là que tu as fondé Les Parasites avec deux potes, c'est ça?
Ouais, ça a mis du temps parce que j'étais auto-entrepreneur au début, ensuite j'ai monté ma boîte de prod pour essayer de vivre un peu de vidéos de commande, donc des petits reportages, des pubs, des machins comme
de
ça.
De l'instit.
Ouais, et puis j'ai pu investir du coup dans du matos, et avec ce matos, je me suis inscrit au 48 Heures Film Project. Et c'est là que Les Parasites sont nés, puisqu'il fallait trouver un nom d'équipe. Et je me suis dit, on va être Les Parasites du concours, dans le sens où on ne le faisait pas pour gagner, mais on le faisait pour s'amuser, quoi. Et on l'a vraiment fait à l'arrache. Au final, on s'est retrouvés en finale à Paris, à avoir le prix de la meilleure réale. Et puis après, on en a fait d'autres. Puis on a eu le prix du meilleur film et tout.
Ouais, parce qu'il me semble que vous êtes passé sur les 48 heures. Parce que les 48 heures Film Project, c'est un concours qui se passe dans différentes villes.
Ouais, c'est un concours international, ouais.
Et du coup, il y a Paris, Bordeaux, etc. Et ouais. Il me semble que vous, il y a une année où vous avez fait quasiment toutes les villes
justement,
de France.
Justement, l'année d'après, ouais, en 2014, on a fait toutes les villes, tous les 48 heures qu'il y avait en France. Donc, il y avait 5 villes plus Strasbourg, qui est un non officiel qui ne fait pas partie du concours international. Et ouais, on a gagné 4 fois meilleur film. Et du coup, nos 4 films sont partis en finale à Los Angeles avec tous les autres meilleurs films de toutes les villes du monde. Donc, c'était trop rigolo. Et là-bas, ouais, on a eu second meilleur film, meilleur acteur pour Bast, meilleur scénario. Enfin, on a été... Donc, tu reviens de là un peu boosté. Et en fait, à chaque 48 heures qu'on faisait, on les publiait sur YouTube, sur la chaîne, du coup, au nom de l'équipe, Les Parasites.
Donc, c'est à ce moment-là, en fait, vous avez créé une chaîne YouTube uniquement dans l'objectif de diffuser les films des 48 heures Film Project, quoi.
Ouais, il n'y avait pas vraiment d'ambition à part les rendre publics, même si, en fait, le 48 heures diffuse ton film. Mais nous, on le refinalisait encore mieux, parce qu'en 48 heures, il y a des petites coquilles qu'on voulait modifier. Et on le mettait, mais on pensait vraiment pas que nos contenus allaient trouver une audience, parce que ce qu'on observait, c'était surtout des vidéos humoristiques qui performaient sur les plateformes gratuites. Donc,
c'était l'époque des démarrages
Studio
de
Bagel, Golden Moustache,
Golden Moustache et compagnie. Ouais.
Et au final, on a dépassé les 10 000, puis les 20 000, et on s'est dit, bah, c'est ouf.
Il y a une audience. Quoi.
Bah ouais, peut-être qu'en fait, on peut se prendre au sérieux et se dire, vas-y, on va faire des vidéos pour Internet.
Mais à ce moment-là, tu te considères toujours pas comme, enfin pas encore en tout cas, comme réalisateur-auteur, malgré le fait que...
Non, c'est juste que quand on me posait la question à l'époque, je disais, oh, je fais des vidéos.
Ouais, voilà. C'est l'époque un peu multitâche où il faut savoir tout faire, quoi.
Ouais, ouais. Bah, ouais. Mais je suis très content hein, d'être multitâche, ça donne une indépendance de ouf dans le travail, quoi. Tu dépends de beaucoup moins de monde pour monter tes projets et tout, donc c'est hyper... Puis comme j'aime un peu toucher à tout, je suis content.
Ça aide. Mm. Et pour revenir sur le 48 heures Film Project, parce que ça a été un vrai tremplin pour vous, en fait.
Bah, ça a été une école aussi, je dirais. Parce que ça t'apprend plein de choses. C'est très rare d'écrire, de tourner dans la foulée, et 48 heures plus tard, t'as le résultat. Et en fait, tu vois très vite ce qui marche, ce qui marche pas. Enfin, ouais, c'est une vraie école. Une vraie école de l'écriture, du tournage, de tout. Et puis au final, quand tu te confrontes au milieu professionnel, tu te rends compte que tu vas pas être dans un confort beaucoup supérieur à ce que tu as connu en 48 heures. Un peu normalement, parce que sinon c'était vraiment exploité, mais y a rarement les budgets pour faire...
tout ce que tu voudrais.
Ouais, donc tu es obligé d'avoir des journées hyper intenses ou de limiter le nombre de plans ou machin. Donc le 48 heures est une super école. Mais ouais, moi j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre à... la direction d'acteur et le scénario avec les 48 heures.
Ok. Et alors, du coup, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le 48 heures Film Project, c'est quoi un petit peu les ficelles Est-ce qu'il y a des ficelles déjà?
Je pense que si tu y vas justement en essayant de trouver les ficelles, tu te gourres un peu de base. Enfin, moi, je pense vraiment, mon conseil, c'est de s'inscrire pour le fun, pour s'amuser, parce qu'on a envie de faire des vidéos, parce que c'est un jeu. Et nous, c'est ce qui a marché et c'est ce qu'on essayait de garder. On essayait de garder cette fraîcheur à chaque nouveau 48 heures parce que quand tu commences à être récompensé pour un, après tu dis, oh, faut qu'on soit à la hauteur, tu vois, de ce qu'on a déjà fait. Et non, on se disait, venez, on le fait pour se marrer, quoi. On le fait pour nous, pour s'amuser et tout. Et c'était un peu c'était la ficelle, du coup. La clé qui a fait qu'en fait, on pouvait pas se gourer dans le sens où, dans tous les cas, on ferait un film. Enfin, on allait s'amuser et on allait faire un film qui nous plaisait. Et je pense que c'est ça le conseil, c'est que si tu veux faire un film qui plaît à tout le monde, en fait tu vas faire un film fade sans identité qui c'est impossible de plaire à tout le monde, quoi. Donc autant faire le film que toi t'aimerais voir et le faire au mieux et t'amuser, quoi.
Oh, c'est ça, se sentira. C'est une bonne ficelle. C'est mieux qu'un top 10 comment réussir le 48
heures. Ouais, j'ai fait une vidéo sur Rouge Vert Bleu où je dis comment réussir son 48 heures, mais je crois que je préviens en mode réussir, ça veut pas dire gagner. Tu vois.
Ouais, voilà, exactement. Et... juste être content de ce qu'on a fait.
Ouais,
à la fin,
parce qu'après, t'es soumis aussi au jugement du jury et tout, donc tout est subjectif. Donc,
parce que du coup, il y a un jury par ville, c'est ça?
Ouais.
Et après, il y a un jury international.
C'est ça.
Ok.
Ouais.
Ok, c'est un très bon moyen de démarrer.
Mais ouais, en plus tu fais un film en 2 jours et tu te prouves que c'est possible et que t'as pas besoin de grand chose finalement pour faire un film qui se tient et tout, et ça met un peu tout le monde à égalité. Enfin, même si, enfin, c'est pas parce que t'as du bon matos que tu vas être faire un meilleur film, quoi. C'est bien vraiment et moi j'en ai vu hein, des équipes se vautrer un peu, et pourtant ils avaient loué une raid, ils avaient, tu vois, ils avaient mis 1000 balles et tout dans leurs 48 heures. Et puis toi à côté t'es impressionné, tu fais, ah ouais, nous on est que 5, on n'a pas beaucoup de bateaux, c'est tout, on n'a pas de lumière, merde, on va faire de la merde. Et au final c'est le scénario qui compte, enfin c'est ton histoire, c'est tes comédiens, c'est tout ça. Et...
ouais, là c'est pas un concours où on va juger sur la technique et...
Non, c'est vraiment, faut attraper le spectateur, quoi. Et ça t'apprend ça, et finalement c'est ça le cinéma, quoi. C'est pas... la technique doit être au service de ça, rien d'autre. Donc ça t'apprend vraiment ça pour moi, ouais.
Ok. Mm. Et alors justement, une fois que vous avez terminé les 48 heures Film Project, donc vous les mettez sur YouTube, sur la chaîne Les Parasites, Là, vous commencez à rencontrer une audience qui au final, est à l'écoute et suit vos projets. Comment ça se passe un peu ces premières audiences?
On a eu de la chance parce qu'on a eu un énorme coup de pouce de Doc7, un vidéaste qui fait des top 7 sur YouTube et qui avait 700 000 abonnés à l'époque et qui faisait ça s'appelait des Bonjour Internet. C'est-à-dire, avant chacune de ses vidéos, il mettait en avant des petits créateurs. Et du coup, on en a fait une avec lui. Et suite à sa publication de la vidéo, on a pris 100 000 abonnés en quelques jours.
Oh wow.
Donc on est passé en gros de 20-30 000 à 120-130 000 abonnés. Et après, ça faisait que monter. Mais... Enfin, voilà. Et du coup, ça change un peu de perspective parce qu'avant ce coup de projecteur, on était en mode, allez, on se la joue à la YouTube, il faut publier un maximum de contenu. Nous, on fait des courts-métrages, donc ça prend quand même un peu du temps, même si on sait qu'on peut en faire en 48 heures. Il y a un moment, si tu veux faire un peu du contenu pour travailler...
Tu peux pas faire une vidéo par semaine, ouais.
Bah ouais, où tu te tues un peu à la tâche, quoi. Mais on se disait, on va faire une vidéo par semaine, on va sortir un teaser, la semaine prochaine le film, la semaine prochaine le making of, et la semaine prochaine un petit reportage vlog pour parler des membres de l'équipe, mettre en avant un peu tout le monde. Et on a tenu ça 2 mois. Et après, on s'est dit, c'est trop dur. Et même au-delà de la difficulté, c'est plus que c'est... Tu fais même plus des contenus. Enfin, ça perd du sens, quoi. Tu fais du contenu pour quoi? Et on avait envie de raconter des histoires qui avaient du sens un peu. Okay. Et ça nous permettait... Enfin, en un mois, on avait pas le temps de se poser vraiment sur qu'est-ce qu'on voulait raconter, quoi. Donc c'était un peu les idées qui venaient comme ça. Ah ouais, vas-y, on fait... Et surtout, on a compris qu'on n'allait pas gagner notre vie grâce à YouTube. Parce que les revenus publicitaires sont beaucoup trop bas et que l'équipe est beaucoup trop grosse. Enfin...
Donc là, c'est au tout début justement de votre chaîne YouTube Les Parasites, c'est là où vous vous rendez compte... Le business model, si on peut appeler ça un business model, mais en tout cas la façon de financer vos projets, c'est les publicités qui sont sur Facebook, sur YouTube. Ouais. Sauf qu'au final, très rapidement, vous vous rendez compte que ça fait pas du tout le chiffre et que vous pouvez pas du tout produire une vidéo de fiction comme on le fait normalement, avec uniquement ces revenus-là, quoi.
Ouais, on a cru un peu à cette illusion au début, mais parce qu'on voyait des chaînes qui avaient l'air de s'en sortir. Et puis après, tu comprends qu'en fait, les bagels, les moustaches et tout, en fait, sont financés derrière par la télévision et qu'il y a des vrais producteurs derrière. C'est-à-dire que tous les gens qui se lancent aujourd'hui, les jeunes et tout, qui se lancent sur Internet, n'ont pas conscience du milieu professionnel dans lequel ils débarquent et à quel point, en fait... Il y a un savoir-faire quand même. Il y a des gens qui savent aller chercher des financements pour produire des œuvres et tout, et que ces œuvres-là ont plein de façons d'être monétisées, mais nous, on en est inconscients. On voit un peu cette première vitrine de YouTube, on a l'impression que, elles sont là et ils arrivent à vivre de ça. Et en fait, tu te rends compte que les façons de monétiser sont multiples et qu'il faut que tu diversifies à mort. Du coup, on avait un Tipeee pour essayer de... Ça, c'est ce qui faisait rapporter le plus d'argent. Et ça... permettait de payer. Bah nous, on ne le mettait pas par mois parce qu'on n'arrivait pas à faire une vidéo par mois, mais on faisait par vidéo, on déclenchait le Tipeee par vidéo. Et ça payait la nourriture pour l'équipe, un peu d'accessoires, costumes.
On est loin de payer les salaires, les tarifs syndicales. Parce que sur un projet comme ça, par exemple, moi, je me souviens du projet La Boucherie Éthique, qui est un projet qui a pas mal buzzé au moment où vous l'avez lancé. Je sais pas si c'est l'un des plus gros projets en termes de vues, mais en tout cas c'est...
C'est clairement pas le plus gros projet en termes de vues, mais c'est le plus long.
C'est un projet qui est conséquent.
47 minutes, ouais.
Ça, c'est combien de personnes derrière?
Il y en a pas mal, parce qu'il y a eu... l'équipe était vraiment... C'est un projet où l'équipe était la plus petite. L'équipe technique était vraiment réduite à mort parce que c'est un documentaire.
Ouais.
Un faux documentaire, là, on spoil. Ouais.
Il est sorti il y a quelques temps.
Oui,
donc,
on peut le dire.
Là, normalement...
Mais du coup, ouais, il y avait juste... En gros, j'étais à l'image et au son, quoi. Et puis, Jérém qui co-réalisait, Bast aussi, qui a vachement aidé aussi à la prod, l'orga, et puis au scénario, on était à 3. Et après, c'était que des comédiens.
Bast, qui est un acteur régulier des projets des Parasites.
Qui fait partie du trio, et qui est comédien, mais qui est aussi auteur et réal, ouais.
Ok. Et donc du coup...
Avec qui on a fait, en fait, avec Jérémy Bernard et Bastien Huguetto, on a co-écrit, co-créé, co-réalisé L'Effondrement.
Ok, voilà. D'accord. Et donc du coup, sur ces projets-là, en effet, même avec une équipe très réduite, les revenus sur YouTube, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros, voire quelques milliers.
Parce que je sais pas aujourd'hui combien ça a de vues, mais peut-être autour de 500 000 vues ou un peu plus. Mais il faut se dire que c'est même pas 1 euro les 1000 vues. Donc,
ouais,
c'est...
donc on est loin de payer une équipe, quoi.
Ouais, c'est même 50 centimes d'euros les 1000 vues, donc t'as 250 euros. Qu'est-ce qu'il fait avec 250 euros ? C'est même pas le... C'est même pas le...
Tu payes le catering pour une après-midi.
Ouais, c'est ça, c'est nul. Donc ouais, on a vite compris qu'on n'allait pas pouvoir financer nos projets comme ça. Et quelque part, ça nous a libéré de la contrainte de rendement. Enfin, tu vois, de se dire, il faut faire une vidéo par mois et tout, il faut faire de la vue. On s'est dit, bah, en fait, comme on ne va pas gagner notre vie avec ça, bah, faisons vraiment ce qu'on a envie de faire, quoi. Et on gagne notre vie à côté avec des vidéos de commandes ou d'autres travaux.
Ok, donc à ce moment-là, vous continuez ces vidéos-là?
Ouais, ouais, ouais.
Et c'était vraiment le côté pour manger et l'autre côté créa qui vous plaît vraiment.
Ouais, l'idée, c'était de se libérer un maximum de temps pour faire ce qu'on aime vraiment. Et puis, ouais, que ça nous coûte rien grâce au Tipeee et pas aux revenus publicitaires. Et puis, voilà.
Et du coup, à ce moment-là, vous êtes déjà allé toquer un peu aux portes des diffuseurs traditionnels, France Télé, Canal, etc., ou pas du tout? C'est quoi l'ambition qui est derrière?
Non, pas du tout. Je pense qu'on n'avait pas conscience de ça. Et puis, ça nous plaisait d'avoir notre chaîne et de croire à cette indépendance qu'on était en train de se créer. Okay. Et non, c'est juste que derrière, il y a Mathieu Marot qui bossait chez Studio Bagel, qui était prod chez Studio Movie, qui m'avait demandé de réaliser un petit truc. Donc, j'avais réalisé un truc pour Studio Movie. Il y a Bast qui avait joué aussi dans un truc pour Studio Movie. Et puis il y avait Gaumont Télévision qui m'avait demandé de réaliser une petite série qui avait été écrite par Tania de Montaigne et qui était en fait financée et diffusée par France TV et qui était ça s'appelle Une nuit au labo et c'était un dérivé d'une grosse série France 2 qu'ils avaient.
Okay.
Et donc c'était la petite série web de la grosse série et du coup bah, c'est là où on a rencontré finalement Canal Plus et puis France Télé et puis du coup ouais, au moment de l'effondrement on s'est dit ah allez on va le proposer aux gens qu'on connaît, c'est comme ça que ça s'est fait, ouais.
Ok, donc pour arriver sur l'effondrement justement qui est le plus gros projet je pense que vous avez fait avec Les Parasites,
ouais.
Là pour le coup donc vous avez commencé l'écriture 2 ans avant
Ah ouais, je saurais pas te dire parce que c'est une idée qui remontait un peu et à la base on imaginait une série en 6 épisodes et puis il y avait un épisode dont le pitch on l'avait imaginé en plan séquence et en fait il y avait des projets qu'on essayait de commencer à essayer de faire produire et puis ça prenait trop de temps et on n'a pas l'habitude de demander autorisation enfin de faire nos trucs quoi, on les fait et puis voilà ça existe donc on était un peu frustrés et on s'est dit venez on fait cet épisode là on en fait juste un court métrage en plan séquence donc on le fait et au moment où on l'a fait on a tellement pris plaisir à faire un plan séquence même si t'es forcément frustré du résultat à la fin, c'est jamais à la hauteur de ce que t'imaginais mais c'était tellement cool et tout et ça tenait la route quand même qu'on s'est dit venez on l'a fait cette série mais on écrit tout pour que chaque épisode puisse être fait en plan séquence et c'est à ce moment-là on s'est dit moi j'imaginais du coup le faire de nous-mêmes, demander l'aide du CNC Talent tous les 2 mois, essayer de faire un épisode tous les 2 mois et puis, faire un crowdfunding.
Vous avez aussi voilà, ça, vous avez aussi réalisé des vidéos à un moment où vous demandiez des crowdfunding, où vous faisiez des crowdfunding. Donc c'était une possibilité
de financement.
Non, c'était
que Tipeee. Hein. On n'a jamais vraiment fait de crowdfunding.
Vous avez jamais fait en amont
Non, on n'a jamais fait, on a besoin de beaucoup d'argent pour tel projet. Non, c'était juste, on a un Tipeee, si vous voulez soutenir nos créations, vous pouvez faire des dons.
Mais pour celui-là, c'était peut-être une possibilité que vous aviez envisagée
à
un moment.
Moi, j'imaginais ça. Et à ce moment-là, je commençais déjà à me poser des questions avec la dépendance qu'on était en train de se créer à ces réseaux. Donc okay. À YouTube, Facebook, Insta et compagnie. Où en fait, on était là à être content d'avoir dépassé les 500 000 abonnés. Mais est-ce que vraiment c'était abonné, quoi?
Ouais,
et
qu'est-ce
du
que
coup,
ça vous amène hein.
Ouais, du coup, je me disais, ah, ça va être l'opportunité avec cette série de commencer à transvaser, je sais pas comment dire, à faire migrer nos abonnés, à récupérer une vraie base d'abonnés, c'est-à-dire commencer à diffuser ailleurs que sur YouTube, sur notre site, avec un système de newsletter, et du coup, on aurait les mails de nos abonnés au lieu de dépendre de YouTube et des algos pour toucher nos abonnés, quoi.
Ouais,
et de leur changement de politique... qui peut intervenir n'importe quand sur notre accord.
Ouais, parce que l'un des gros problèmes des plateformes, c'est justement ça, c'est que t'as beau avoir 500 000 personnes qui te suivent, entre guillemets, si demain ils décident de plus mettre les notifs si jamais tu payes pas de pub, comme l'a fait Facebook par exemple, t'es vite bloqué et tu peux plus faire grand chose en fait, tu peux pas les contacter, tu peux pas...
Ouais, ça je sais pas par rapport à... En effet, il y a beaucoup de créateurs qui se plaignent que s'ils monétisent pas, ils sont moins mis en avant. Moi, j'ai des contre-exemples de ça, donc du coup, je ne saurais pas dire à quel point c'est vrai. Mais
c'est ça peut être une c'est... des problématiques futures.
Ouais,
quoi,
bien sûr.
Où,
t'as mais
pas du tout la
pas
main
les rênes.
sur les.
Ouais,
voilà.
ouais. Et puis surtout, ils peuvent décider que tel sujet, c'est pas... ça ne rentre pas dans leur politique, donc boum, ça dégage. Et puis même, tu publies une vidéo, et puis ils expliquent bien, ils ont même des formations YouTube, enfin, ils ont des formations en ligne pour éduquer leurs créatrices et créateurs à performer sur leur plateforme. Et ils se déplacent même au Frames Festival, par exemple, pour faire des formations, pour expliquer comment, non pas comment l'algorithme fonctionne dans les détails, mais plus comment performer, quoi. Qu'est-ce que eux ils conseillent. Et clairement, leur conseil, c'est de publier un maximum, parce qu'en fait, leur objectif à eux, c'est de contenter le spectateur. Et du coup, pour contenter le spectateur...
Il faut qu'il y ait du contenu infini, ouais.
Bah, ce qu'il faut, c'est... ce qu'ils remarquent, c'est qu'ils... Enfin, ce qu'ils analysent, c'est tes habitudes de consommation en tant que spectateur. Donc, si un créateur sort régulièrement des vidéos, donc du coup, tu vas régulièrement regarder ces vidéos, donc c'est « Ah, donc tu aimes beaucoup ces vidéos, donc je te les suggère. » Tu vois, YouTube te les suggère. Mais si t'es un créateur qui publie pas beaucoup, du coup, tes habitudes de consommation sont pas ce créateur-là. Donc, il est invisibilisé, tu vois. Donc, vraiment, ça encourage... Enfin, c'est... Donc, c'est rigolo, cette défense de « Nous, notre objectif YouTube, c'est de contenter le spectateur. » Mais finalement, ça dessine et ça décide un choix de... éditorial. Enfin, tu vois, tu imposes finalement à faire du contenu éphémère, régulier.
Ouais,
enfin,
c'est, pas
c'est,
du tout
c'est la quantité avant la qualité, quoi. Et même, ouais, ni au service de la création, pour moi.
Ouais, voilà.
Et la qualité des contenus,
c'est
quoi.
Plutôt juste, on essaye d'abreuver au maximum. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est de la junk vidéo. Ouais. Pour le mec à 3h du matin devant son ordi qui se retrouve dans une loupe infinie d'internet et,
ouais, c'est ça.
Et qui décolle pas pendant 4h, quoi.
Donc ouais, quand on fait de la fiction, c'est pas évident de s'insérer dans ça, quoi. Ou alors faut se regrouper, hein, avec plusieurs autrices auteurs et puis faire, mais c'est
compliqué.
Et même, enfin, je pense que c'est ça aussi le piège, c'est que on a des exemples de gens qui réussissent beaucoup sur ces plateformes. Et puis on sait pas non plus les modalités derrière, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont plus d'un million et tout, ils ont des contrats d'exclusivité avec la plateforme qui fait que on leur demande de publier que sur cette plateforme, ils doivent ils ont même des revenus garantis à l'année, etc. Mais c'est une petite élite, on va
ouais,
dire,
de
créateurs, et c'est réservé vraiment à très peu. Et même ces gens-là n'ont pas forcément les financements pour faire du court-métrage.
Ouais, où ils ont des financements publicitaires à côté de sponsors.
Ouais, mais
et même
la
ça,
publicité
ne pas...
suffit pas. Il faut qu'ils aillent chercher évidemment des aides du CNC. Mais finalement, tu te rends compte que quand tu te professionnalises dans le milieu, c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'on débarque en pensant remplir toutes les casquettes de ce qu'est la production. Et en fait...
On se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs derrière.
Il y a des trucs à savoir et que surtout, il y a mille façons. Il suffit de lire un contrat d'auteur et tu te rends compte de toutes les façons qu'on a de monétiser ton contenu. Et du coup, j'encourage tout le monde à se procurer un exemple de contrat d'auteur. Les sociétés d'auteurs peuvent en fournir. Et là, tu te rends compte, tu fais « Ah ouais, d'accord, en fait, tes vidéos pourraient être traduites, vendues à l'étranger. Elle pourrait être diffusée en chaîne secondaire ou je ne sais quoi. Elle pourrait... Tout ce qui est remake, suite, machin, c'est des droits aussi, les produits dérivés. Enfin, il y a mille façons de monétiser les ventes de DVD ou de Blu-ray. Enfin, les produits physiques, même si aujourd'hui...
De DVD, mais...
Ouais, bah, tu vois, par exemple, El Colapso, ce qui est en gros Studio Canal, c'est le vendeur international pour la série L'Effondrement. Et ils l'ont vendu à une plateforme qui s'appelle Filmin, qui diffuse ça en Espagne. Et ils ont fait un travail de dingue au niveau de la com, même meilleur qu'en France. Et ils ont créé une affiche et tout. Du coup, c'est traduit El Colapso. Et tu vas à la FNAC là-bas et t'as le Blu-ray d'El Colapso.
C'est dingue.
Donc, tu vois, il y a aussi des recettes
là-dessus, ouais.
Possibles là-dessus. Alors, nous, on n'en voit pas la couleur, mais...
C'est un autre débat.
Dommage.
Et alors, justement, pour revenir deux secondes avant de partir sur ce sujet des plateformes, sur L'Effondrement.
Ouais.
Sur ce projet-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on en parle déjà un petit peu, mais bon, ça fait beaucoup de bruit. À l'époque, c'est sorti juste avant le confinement lié au Covid, avec pas mal de ressemblances sur les faits qui se passaient au moment du confinement. C'est l'histoire de l'effondrement de la société et on suit en plan séquence différents personnages qui vivent ce moment-là. Ouais. Du coup, il y a une vraie problématique technique sur la partie plan séquence. Est-ce que vous aviez déjà fait, vous, sur certains de vos courts-métrages, un peu de plan-séquence ? Comment ça s'est passé, la prépa, pour ça ?
Ouais, on s'était lancé... En fait, avec Jérém, on avait été voir Victoria, qui est un film de 2h20, un film allemand, un vrai plan séquence de 2h20. Et on est ressorti. Moi, je m'attendais à me faire chier et tout. Je me suis dit, ouais, un plan séquence de 2h20, on va se faire chier. Il va y avoir des moments hyper longs, hyper chiants. Et en fait, on s'est pris une grosse claque quand on s'est dit, ouais, c'est fou. Ils ont fait un plan, quoi. Ils ont fait un plan, ils ont un film qui marche, qui te tient, qui te fait stresser et tout. Et du coup, on s'est dit, viens le prochain 48 heures, on le fait en plan séquence. Donc, on s'est lancé ce défi-là et on l'a fait. Et c'est ça aussi qui nous a donné le goût. C'est trop bien, on a tellement l'habitude. Enfin, en tout cas, j'ai tellement eu l'habitude de découper.
Travailler avec un séquencier précis.
Non, enfin, en 48 heures, on n'a pas le temps de faire vraiment notre découpage. Donc, c'est du découpage télé. Enfin, comme je dis, quoi, c'est genre plan large, champ contre champ. Voilà. Et puis, on filme tout comme ça. Et puis, finalement, il y a un peu du non-choix. Il n'y a pas de choix de réel. Quoi. C'est, on prend pas de risque, on couvre tout. Et puis, on verra au montage. Et c'est frustrant. À un moment, tu as envie d'avoir plus de temps et puis de tenter d'autres choses en tant que réel. Et là, c'était une façon de se forcer à avoir un vrai choix de réel, finalement, de faire du plan séquence. Là, tu pourras pas tout capté. Donc faire des choix et tu les fais au montage, tu les fais au tournage, t'as pas le choix. Et du coup, ouais, ça faisait du bien aussi. Puis j'ai l'impression qu'on fait aussi des films et on raconte des histoires parce qu'on a envie de les vivre, ces histoires. Et là, le fait de les filmer en plan séquence, bah, tu vis ton film en temps réel.
En temps réel, ouais.
C'est génial. Et toute l'équipe est hyper impliquée. Enfin, vraiment, l'effondrement, ça a été les meilleurs tournages qu'on ait jamais eu. Hein.
Et sur l'effondrement, la question, c'est aussi techniquement, il y a quand même un défi de faire du plan séquence. Donc, vous y êtes essayé dans un 48 heures film project sur un projet aussi gros que l'effondrement.
Ouais.
Comment ça se prépare? Parce que d'un point de vue lumière, machinerie, etc., c'est quand même un boulot de dingue. Il y a des coupes ou pas sur les épisodes ou c'est un vrai plan séquence?
Il y en a la moitié des épisodes qui sont trichés. Ouais.
Okay.
Mais l'autre moitié qui n'est pas triché. Et à la base, on pensait en tricher que deux.
Okay.
Parce que vraiment impossible à ne pas tricher l'épisode de Lille. On est sur un voilier, le voilier se fait immobiliser et tout. On pensait faire une coupe à ce moment-là. Au final, il y en a plus de 10 dans cet épisode. Et l'épisode de l'aérodrome, où on pensait faire qu'une coupe parce qu'on part d'une maison et on finit dans un aérodrome et jamais on n'aurait trouvé pour le timing du plan et tout, le rythme. On savait qu'il faudrait couper dans le trajet. Et c'est ce qu'on a fait au tournage. Et au final, on a quand même mélangé un peu des... En fait, à partir du moment où tu triches, après, tu te dis... Bon, on va tricher, on peut tricher plus. Mais ça s'est fait a posteriori. C'est-à-dire, ça ne s'est pas pensé sur le tournage.
OK.
Et il y en a 4 qui ne sont pas trichés, ouais.
Donc, du coup, sur ce projet, vous aviez une chef-op avec qui vous aviez déjà bossé.
Clémence Plaquet, on avait déjà bossé parce que moi, j'avais co-réalisé la première saison de Coco Voit et elle était chef-op dessus.
Okay.
Mais d'habitude, sur les créations qu'on faisait, c'était souvent moi le chef-op réel. Il n'y avait pas vraiment de lumière. Enfin, les 48 heures qu'on faisait, on n'avait pas de projecteur lumière.
Okay.
On faisait ça que en lumière naturelle ou alors on plaçait les lampes de jeu, on va dire, en intérieur comme il fallait, quoi, pour que ça rende un peu.
Et alors du coup, c'est quoi les gros défis auxquels elle a fait face avec vous sur ce projet-là, qui est quand même assez particulier? Les épisodes, ils duraient une vingtaine de minutes.
Ouais, 20 minutes en moyenne. 20 minutes. 15-20 minutes, ouais.
Donc c'est quand même un boulot de préparation millimétré avec les comédiens, la caméra, etc. Comment ça s'est passé?
Ah bah clairement, pour nous, le plus grand défi, c'était les comédiens, le jeu. Parce que c'est ça qui tient, c'est eux qui vont créer le rythme, c'est eux qui tiennent le spectateur. Vraiment, ça repose que sur eux, quoi. On peut pas tricher en post-prod, pour le coup. Donc ouais, non, on savait que ça allait être la priorité et on a essayé d'avoir un maximum de répétitions et tout, mais budget fait que t'es obligé de resserrer et que on a eu au final... une demi-journée de lecture scénario avec les comédiens, une demi-journée de répète sur décor et une journée de tournage. Ouais, pour chaque épisode. Après, il y a certains épisodes qui étaient un peu différents parce qu'on a dû les découper, comme l'aérodrome, où ça s'est fait en 2 jours. Mais on avait une journée sur la maison, une journée sur l'aérodrome et c'est tout, quoi.
Okay. Ah ouais. Donc,
une demi-journée de répète sur décor pour la maison.
Pas de répète non plus hors décor en amont pour bosser un petit peu avec eux.
On a essayé et au final, on s'est rendu compte que c'était pas du tout. C'était pas intéressant. Enfin, ça nous aidait pas tant que ça.
Ah ouais?
Pour le premier épisode, on s'est dit, on a essayé de répéter dans un hangar et. Non, on a abandonné l'idée. C'était trop bâtard. C'était pas. Enfin, de toute façon, je pouvais pas chercher mon cadre là-dedans, même si, évidemment, au scénario, on a des idées aussi de moments clés au cadre, mais ça se décide quand même beaucoup en fonction du décor et des mouvements et tout, quoi. Mais du coup, ce qu'on faisait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de faire ce qu'on appelait, nous, un pré-shot. C'est-à-dire que quand on faisait. Déjà, quand on faisait les repérages, en fait, tout est vachement plus exigeant pour un plan séquence. Mais vraiment, enfin, t'as pas le droit de laisser quelque chose au hasard. Et même la recherche de décor est hyper exigeante dans le sens où tu peux pas tricher là. Tu peux pas. Ton trajet, il doit être vrai. Tu vois, tu peux pas trouver un lieu. Ah, ça, c'est bien. Et puis.
Porte et hop, tu vas
ouais, c'est ça.
Décor,
ou alors, faut vraiment tricher le plan séquence constamment. Mmh. Et nous, on voulait faire des vrais plans séquences. Du coup, ouais, on filmait tout au smartphone quand on se faisait le trajet dans chaque lieu qu'on visitait pour l'envisager. Une fois qu'on avait choisi, on y retournait avec plus de gens, de membres de l'équipe qui avaient chacun un scénario en main et on disait, bah toi, tu joues tel personnage, machin. Et on faisait, même s'il était découpé, on faisait le plan séquence sans les comédiens, mais avec l'équipe technique. Et du coup, ça devenait notre référence, ce pré-shot, on le montrait à tout le monde. Et même aux comédiens, du coup, ils pouvaient se projeter, ils pouvaient voir le décor avant d'y être, ils pouvaient dire ok, ça c'est moi, donc je vais devoir faire ça comme mouvement et tout. Et je pense que ça nous a fait gagner un temps énorme, même pour les équipes techniques, de savoir, ah, même pour le son, ah, ok, donc là il y a un angle mort. Enfin, même s'ils venaient confirmer en mode tu vas pas changer ton plan ou pas, et tu disais bah c'est possible, donc ah, ok, bon, on va prévoir autre chose. Mais même pour les placements lumière, tu te dis ok, cette zone là, on peut clairement cacher des projos, des choses comme ça. Et beaucoup, oui, et beaucoup de prépa en vrai, la prépa. Et Alice Murillo, qui était notre assistante réelle, elle a tellement géré. Enfin, c'était... Là, pour le coup, tu te rends compte de l'importance de ces rôles qu'on nous, on avait l'habitude de se passer pour nos petits courts-métrages et surtout en 48 heures, tu vois.
Ouais, t'as pas le temps.
Et là, tu fais, ah ouais, ok, il y a un vrai savoir-faire et c'était frais.
Parce que là, il y a combien de mois de prépa avant le tournage?
C'est au final une collection un peu de courts-métrages, donc c'était... Enfin, je crois que le plus court qu'on ait eu, c'est que 2 semaines. À partir du moment où... Enfin, on avait le décor, hein, mais c'est genre, ok, go, c'est parti, on a la date de tournage et on a que 2 semaines pour tout préparer. Sinon, c'était plus 1 mois, on essayait de se laisser 1 mois.
Ah, ouais. C'est rythme soutenu quand même.
Ah ouais, c'est hyper soutenu, ouais.
Ah
ouais,
putain, je pensais que vous aviez eu à chaque fois un bon mois de prépa pour chaque épisode.
Ouais,
non,
ça dépendait, ouais. Des fois, c'était
mais,
speed.
Putain, ok. Mmh. Et alors, justement... sur la question de la direction d'acteur, je trouve ça super intéressant et il me semble que tu en parles dans un podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps de Julie Cléry, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui, oui.
C'est ça, ouais.
Ouais, ouais. Oui, c'est parce que c'est pas un podcast, c'est une interview.
Ouais,
sur,
c'est une interview vidéo, pardon.
Sur sa
chaîne,
ouais. Julie Cléry. Ouais.
Où tu parles justement de la direction d'acteur et que tu parles à un moment de la direction d'acteur sur l'effondrement. Et c'est vrai que du coup, ça demande un certain travail de placement pour eux et pour toi.
Ouais.
Parce que tu étais au cadre sur la série, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et du coup, comment tu te prépares si t'as pas de répétition pour justement bosser avec les acteurs de ok, là je vais passer par là, je vais être juste derrière ton épaule ou je vais être à gauche?
Bah, c'était la demi-journée de, de répète sur décor où on segmentait, enfin on faisait par séquence, même si c'est un plan séquence, on avait quand même des séquences dans nos scénarios parce qu'il y a des changements d'espace quoi. Mmh. Et du coup, on répétait par bloc. Et une fois qu'on avait répété tous les blocs, généralement je répétais avec une petite caméra qui pèse rien. Parce qu'on tournait en Alexa Mini, mais même si elle est légère, et même si Romain Pluma, qui était assistant op, m'avait fait la config la plus légère du monde, ça restait lourd à porter. Donc pour pas m'épuiser avant le tournage, je prenais une petite caméra à la main, et puis avec la même focale et tout. Et puis alors, en fin de journée, on essayait avec la vraie caméra de faire une prise entière. Pas par bloc, quoi. On fait le film d'un coup. Et du coup, ça devenait en fin de journée aussi notre référence pour toute l'équipe, même pour. Je crois pas qu'on l'ait fait pour tous les épisodes, mais sur certains épisodes, on regroupait tous les comédiens. On aimait beaucoup faire ça. Et on leur faisait visionner, les comédiens qui aiment pas se voir, mais là, on trouvait ça vraiment essentiel de leur faire voir la prise et de se permettre de faire pause et de dire, ok, là, tu vois, ce qu'on attend, c'est ça, c'est telle intention, là, niveau placement, enfin, on réglait tout, quoi.
Ok.
Et on avançait comme ça, on faisait pause, machin. Et du coup, on... Ouais.
Ah, donc t'as une prise de prépa, tu fixes tout de suite au visionnage avec toute l'équipe. Et derrière, t'enchaînes.
Le lendemain, le matin, c'était des prises de répète parce qu'elles sont inexploitables. Et puis surtout, en parallèle, il fallait briefer la figuration. Et ça, c'était un gros boulot aussi.
C'est vrai, il y a des épisodes, celui de la station-service notamment. C'est le premier qui me vient à l'esprit où il y a un nombre de figurants, de voitures dans le champ qui partent dans tous les sens. Enfin, il y a quelque chose là quand même en termes de boulot.
Gestion, de ouf, Manuel Soroche qui a géré la figu à la perfection. Heureusement qu'on était 3 aussi réel avec le peu de temps qu'on avait, et puis heureusement on était bien alignés sur ce qu'on voulait pour que ça roule. Du coup, on pouvait se répartir un peu. Bon, toi tu gères ça. Voilà.
Mais alors, comment ça se passe justement de bosser avec 2 autres réals? Parce que c'est ça arrive, mais c'est pas non plus très commun.
Ouais.
Du coup, comment ça se passe de bosser à trois? Vous êtes, tu dirais que vous êtes complémentaires, que vous arrivez à chacun à porter un peu une patte différente. C'est quoi le...
Ouais, bon, en fait, comme on a écrit ensemble, on savait ce qu'on voulait. On était quand même très alignés sur le résultat qu'on attendait tous les trois. Et sur le tournage, et même en amont, on pouvait se répartir. On essayait de prendre les décisions à trois, mais quand il n'y avait pas assez de temps, on se disait, bon, ok, vas-y, gère les costumes. Toi, gère la déco. Et moi, je me retrouvais souvent à la technique. Mais ça m'allait, j'aime beaucoup. Et ouais, donc on se répartissait un peu les tâches, même sur le tournage. Donc moi, j'étais au cadre, Bast était derrière le retour vidéo, sauf pour l'épisode où il joue dedans, évidemment. Et Jérém était au top, comme on disait, c'est-à-dire au rythme, vraiment. C'est lui qui lançait tout. C'est-à-dire, il me suivait derrière la cam, et il avait un retour vidéo HF sur lui, et il lançait les entrées de comédiens, tout quoi, la figure, etc. Donc, poste très important. On avait chacun un poste très important où, à la fin, on se retrouve à la fin des prises et on débriefait. Et ce qui était bien, c'est que, du coup, aussi, Bast pouvait avoir un carnet, lui pouvait noter un peu pour rien oublier. Du coup, on se retrouvait et puis on listait tout ce qui nous allait pas, tout ce qu'on voulait modifier. Après, on pouvait se répartir pareil. Toi, tu fais les retours pour tel corps de métier ou tel comédien et tout. Et puis, on se répartissait comme ça.
Ok. Ouais, voilà. Ça doit aider de se connaître depuis quelques années, d'avoir fait pas mal de projets ensemble.
Heureusement.
C'est pas d'un coup, tiens, si on se lançait tous les trois sur une série.
Mais non, c'est pas évident parce que c'est forcément arrivé des points de désaccord dans l'urgence et tout. Il faut arriver à trancher vite, quoi. Donc, c'est pour ça que la prépa est hyper importante. Il faut tout régler, il faut tout décider avant. Mais du coup, c'est une super école, encore une fois, et par l'exigence que ça pose, même pour les prochains projets qui seront pas forcément faits en plan séquence, pour avoir cette même exigence et du coup être très confort au tournage et pouvoir vraiment avoir quasi zéro décision à prendre sur le plateau, que tout était pris en main.
Parce qu'on sait ce qu'on veut faire et,
et
on va droit
au but. Et qu'après, tu n'es plus qu'à obtenir précisément... Ou justement avoir le luxe de tester plusieurs choses, quoi.
Ouais, bien sûr. Vous avez eu des problèmes particuliers sur le tournage, justement, avec toutes les contraintes techniques que ça a imposées et le peu de temps au final que vous avez, parce que c'est peu de prépa. Vous n'avez pas eu de problèmes particuliers, ça a réussi à bien se dérouler.
Il y a eu des soucis, mais ça a toujours été réglé. On a flippé aussi des fois. Franchement, c'était du saut à la perche. Enfin, vraiment, on n'arrêtait pas de dire c'est du saut à la perche, mais des fois, on était en mode « Putain, on n'aura aucune bonne prise, quoi. Il va falloir faire avec ce qu'on a, tu vois. » Et non, au final, on s'en est toujours plutôt bien sortis. Les galères... l'épisode du hameau, qui était un des plus longs, on a pu faire que 3 prises. Et ça, on était un peu frustrés parce qu'on a fini trop tard et qu'on aurait pu refaire une prise, mais il y aurait eu des ombres de partout. C'est-à-dire le soleil était déjà trop bas.
Okay.
Et que soit à la perche ou moi, à la caméra, je savais qu'on a testé des endroits et tout. On fait, j'aurais pas mon cadre. Enfin, genre, je vais être obligé d'être plus loin des comédiens et tout, ça va être nul. Et du coup, on s'est dit, ça a rien de la faire.
Ouais, c'est la question que je me posais, c'était... Étant donné la difficulté des prises et la longueur de celle-ci, est-ce que tu as le temps de faire plusieurs prises?
On essaie d'en faire un maximum, ouais.
Mais j'imagine que tu es vite limité, quoi.
Ouais, je pense qu'on a réussi à en faire 9, 10, 11 max.
Ok, ce qui est déjà pas mal.
En une après-midi, quoi. Okay. L'idée, c'était d'en faire au moins une par heure, voire plus, si on y arrivait.
Ok.
Parce qu'il y a le temps de la prise, le temps de la remise en place, et retours, etc. Et c'est reparti, ouais.
Ouais, c'est un sacré boulot, c'est impressionnant.
C'est trop bien parce que tout le monde est concerné à mort. Je sais pas comment dire, mais le plan séquence, il repose sur tout le monde. Tout le monde peut faire foirer le film. Du coup, il y a une attention qui est là de la part de tout le monde et tout le monde est vraiment impliqué. Enfin, tu sens vraiment l'œuvre collective pour le coup, quoi. Du régisseur jusqu'au comédien principal, je veux dire, tout le monde est solidaire, quoi.
Étendu.
étendu, c'est trop bien. Et ouais, j'ai des retours d'ingé son et tout de Perchman qui m'ont dit putain, c'était le meilleur tournage que j'ai fait. En fin de journée, il y avait vraiment un truc de waouh, on a accompli quelque chose, quoi. Et c'était fort. C'était puissant.
Ouais, c'est assez rare en même temps une série tournée en plan séquence comme ça. J'en ai pas le souvenir de beaucoup qui s'y sont tentés.
Ouais, je sais
donc,
pas.
Donc c'est vrai que c'est une belle perf. Franchement, en vrai, félicitations pour ça.
félicitations à toute l'équipe.
C'était une équipe de combien de personnes d'ailleurs sur ce projet-là? Tu te souviens un peu?
Beaucoup. Hein.
Ouais.
Ouais. Bah, ça dépendait des épisodes, mais des fois, l'équipe lumière était énorme. Par exemple, le supermarché, tu vois, on fait quand même une coupure d'électricité. Dans le scénario, il y a tout éteint.
Ouais, tu te balades, tu te rends pas compte que l'arrière du magasin, etc.
Après, on joue avec la lumière existante, mais il y a quand même des lumières d'appoint. Quand tout se coupe, il faut quand même qu'on voit quelque chose, etc. Donc, Non, c'était exigeant. La centrale, c'est l'épisode le plus... J'ai l'impression le plus dur parce qu'il n'y avait pas de centrale. Elle a été rajoutée en post-prod, même le camp militaire, et tout est... Là, il a été monté sur pied, mais on était dans un terrain de foot, donc en fait, il fallait créer aussi ces fausses... Enfin, il fallait qu'on sente que c'était une centrale dans le sens où il fallait des grillages. Enfin, des...
Ouais, ouais.
Voilà, c'est pas ouvert au public, quoi, une centrale. Donc, il fallait construire tout ça. Enfin, c'était énorme. Et du coup, ouais, l'équipe déco plus lumière.
Et c'est vrai que du coup, tu me fais penser justement sur un plan séquence, vu
même
que
costume
tu
aussi,
te balades à droite, à gauche. Là, tu parlais du supermarché où vous avez même fait une coupure d'électricité, etc. Mais tu te balades, donc ça commence dans les rayons, ils vont en caisse, après ils vont dans l'arrière du magasin, ça finit sur le parking, puis dans un van.
Ouais,
c'est à peu près ça le chemin,
ouais,
je crois.
C'est ça.
Normalement, tu aurais tout découpé par lieu. Donc, tu aurais ton équipe lumière, ton chef op et ton chef électro qui auraient posé les lights un peu au fur et à mesure du truc de la journée de tournage ou des journées de tournage d'ailleurs. Ouais. Sauf que là, il faut qu'ils éclairent tout le parcours.
Ça.
Donc, en termes de quantité de lights, c'est
mais même de micro,
quoi.
De tout.
Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, tout est multiplié par je sais pas combien. Quoi. Putain, c'est dingue.
Oui, c'était rigolo. C'est trop bien. Enfin, toute l'équipe était à fond. C'était un défi pour tout le monde. Donc, c'était trop plaisant. On sortait de la routine des tournages, justement, découpage télé, quoi. C'était genre, non, là, on fait autre chose. Là, on fait un truc qu'on n'a jamais, que quasi personne n'a jamais fait, mais on va le faire au mieux, on va tout donner.
Et ouais, bah c'est plutôt bien réussi, donc c'est trop bien. Et alors, justement, du coup, sorti de cette expérience-là, donc c'est sorti, donc on a dit fin 2019.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe après pour vous? Est-ce que Les Parasites, ça vous a permis d'être diffusé sur Canal+, donc de sortir un peu du schéma Internet, même si aujourd'hui, la série, elle est
sur YouTube,
elle est sur YouTube quand même. Mais bon, elle a démarré par Canal.
My Canal.
Comment ça se passe derrière pour vous? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que ça vous a simplifié un petit peu au monde de la production, ou peut-être aux distributeurs auxquels vous n'aviez pas accès avant? Comment ça se passe?
Ouais, on a enchaîné pas mal de rendez-vous avec plein de producteurs, ouais. Et ça, c'était cool. Enfin, on a vraiment senti que les portes s'ouvraient, quoi.
Ouais, à l'époque où vous étiez les parasites
crédibles
de YouTube, personne ne vous répondait, ou peut-être que vous essayez pas forcément.
Non, on n'essayait pas forcément. Ouais. Et puis, je te dis, si, on est du coup avec Gaumont, ou avec Gaumont Télévision, avec. On avait déjà eu des rendez-vous un petit peu, mais là, on est beaucoup
Mais là, c'est
plus,
vraiment
ouais.
le. On y
ouais,
va.
Ouais, là, on pouvait aller toquer à la porte, ou alors on venait nous chercher. Donc, c'était. C'est pas mal. Du coup, on a fait la rencontre de plein de gens et maintenant, on a le choix pour les projets de dire
avec
OK,
qui
on
bosser.
Va qui bosser. Après, ça veut pas dire qu'ils vont dire oui, mais ouais, non, ça a rendu tout plus accessible quand même, ouais.
Ouais, ça vous laisse plus de choix et ça vous permet peut-être de vous concentrer, vous, plus sur la partie artistique, scénar, etc.
Ouais, et à la fois, on a tellement été habitués à tout maîtriser, à tout faire nous-mêmes que c'est dur de se rendre compte que tu dois céder tes droits, machin et tout. Donc même ouais, ça pose des questions par rapport à nos visions de la société et tout, de se dire mais est-ce qu'on a envie de, enfin en tout cas ça, c'est très personnel pour le coup, mais est-ce que j'ai envie de participer à finalement, même la production du ZEL est très très capitaliste dans l'âme, enfin donc ouais, moi ça me pose question sur même les droits d'auteur, sur la répartition de qui va être rentier du programme, etc.
Et c'est d'ailleurs, donc tu as un de tes projets qui s'appelle Démonopolisons la vidéo.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Ouais. Là, c'est plus sur le volet diffusion, mais en vrai, ça...
Là, c'est sur le. Mais bon, c'est quand même assez proche, je pense, si je dis pas de bêtises. Où tu t'es vraiment posé les questions après justement ce passage YouTube de en fait, pourquoi on fait ça sur YouTube? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est quoi un petit peu le constat?
Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a fourni beaucoup de travail gratuit pour enrichir des plateformes qui sont détenues par des géants d'Internet. On leur a fait des cadeaux de contenu gratuit, quoi. Et pour être rémunéré quasi zéro derrière. Et en plus, on construit des communautés qui ne nous appartiennent pas parce qu'on n'a pas les adresses mail de ces gens-là. Quand on publie du contenu, ça s'est filtré à travers leurs algorithmes et tout. Donc, ces 500 000 abonnés qu'on a, c'est plutôt les abonnés de YouTube que les nôtres, quoi. Et puis, ouais, et puis après, avec le recul, maintenant, on a un peu de recul avec ces réseaux sociaux et tout, de se rendre compte qu'il y a des effets de mode, il y a des plateformes qui naissent, qui meurent, comme Vine, qui est vraiment un exemple de naissance. Il y a eu des millions de vues dessus, puis pff, c'est mort. Donc, il y a des gens qui ont construit des communautés là-dessus, puis boum, ils n'avaient plus rien. Facebook est en train de vivre peut-être une descente, j'en sais rien. Après, il y a Instagram, mais du coup, la communauté que tu as créée sur Facebook, après, il y a peut-être une audience, enfin, les audiences se répartissent, peut-être les vieux sont sur Facebook, les jeunes sur TikTok, j'en sais rien. Mais voilà, c'est aussi prendre conscience et faire prendre conscience à tous ceux qui se lancent de faire attention, d'utiliser, en effet, de profiter du trafic généré par ces géants du web.
Parce que ça peut quand même être des bons tremplins au démarrage quand personne te connaît.
C'est gagner en visibilité
et tout.
C'est
évident de se diffuser tout seul.
Ouais, mais d'être conscient aussi de que l'indépendance auquel on te fait croire, elle est un peu factice, quoi. Enfin, genre, tu te rends dépendant de ces plateformes aussi. Et de leurs choix qui peuvent changer à tout moment sur leur politique, sur la monétisation, sur tout. Et
du coup, démonopolisons la vidéo. Ouais. L'idée de cette, je sais pas, on appelle ça une plateforme, le projet, le...
Non, ouais, c'est un, je sais pas, c'est un groupe de réflexion.
Un groupe de réflexion. L'idée, non, c'est de partager un petit peu autour de ce sujet-là.
Ouais, l'idée que j'ai lancée sur démonopolisons et sur Rouge Vert Bleu, du coup, c'était de dire on va commencer à raconter des aventures autres qu'une diffusion web gratuite sur ces plateformes. Et du coup, de voir un peu ces vidéastes, ces créatrices et créateurs qui commencent à remettre en question ça et qui tentent des alternatives pour montrer aussi qu'il y a d'autres chemins possibles, quoi. Et c'était un peu l'idée. Et plus on sera nombreux à vouloir s'émanciper un peu de ces plateformes, plus ce sera facile de réaliser le projet qui permettrait ça. Et du coup, ouais, on est beaucoup en réflexion de qu'est-ce qu'il nous faut du coup comme outil, qu'est-ce qui pourrait nous émanciper au max. Alors bien sûr, tout en... Je précise parce que souvent les gens, c'est utopique et tout, de quitter. Enfin, on va pas créer un truc qui va concurrencer YouTube ou je ne sais quoi.
Ouais, l'idée c'est pas de faire la même chose ailleurs.
Bah non, justement, c'est de réfléchir différemment, d'arrêter de recréer des plateformes qui se veulent concurrencer toutes les autres et prendre l'audience. Mais ouais, du coup, l'état de la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est et si tous les vidéastes avaient, au lieu d'avoir une page sur YouTube ou sur Insta ou je ne sais quoi, avaient aussi leur site avec leurs vidéos hébergées par eux-mêmes, où ils auraient leur système de newsletter, du coup ils auraient vraiment leurs abonnés, ou en utilisant d'autres protocoles de réseaux sociaux ouverts et décentralisés comme peut faire ActivityPub. Bon bref, on va peut-être pas rentrer dans les détails de tout ça, mais tout en gardant la force de ce que ces réseaux permettent, c'est-à-dire les recommandations, de se recommander les contenus les uns des autres, du coup de ne pas être isolé non plus sur son site. Et du coup, d'avoir ce site permettrait en fait d'arrêter de passer par 1000 intermédiaires pour monétiser nos contenus, que ce soit les plateformes de Patreon, Tipeee, même les Linktree. Enfin, tu vois, Linktree, c'est quand même... on te vend parce que c'est assez... Enfin, si tu veux avoir toutes les options de Linktree, tu payes. Et ils sont quand même mis dans une faille...
Il n'y a pas de lien possible sur Instagram.
Ouais,
donc
parce que les plateformes n'ont aucun intérêt à ce que tu les quittes, enfin que le spectateur aille ailleurs. Donc ils font tout pour te garder le plus longtemps possible sur leur plateforme. Du coup, les plateformes limitent les options pour les créatrices et créateurs de mettre des liens qui te dirigent ailleurs. Du coup, Linktree a pris cette faille-là pour. Tu peux quand même mettre un lien qui va vers l'extérieur, à part, sauf dans les stories d'Insta. Et du coup, ils proposent de centraliser, de te créer ta page où tu peux centraliser et mettre tous tes liens qui te dirigent vers tous tes réseaux ou tes trucs et tout. Mais ça, il faut se rendre compte que c'est juste une page d'un site. Toi qui fais des cafés,
un peu
site
d'internet
aussi, ouais, voilà. Tu te rends compte que c'est tout con, quoi. Mais en effet, c'est pas notre métier en tant que vidéaste. Et du coup, voilà, d'avoir un site où tu peux choisir ta façon de monétiser tes contenus. Tu pourrais embarquer tout, que ce soit tes vidéos, tes podcasts audio, et avoir un point central tout en te connectant à d'autres et en te fédérant en catalogue qui pourrait rassembler plusieurs vidéastes.
Pour quand même avoir un petit peu de visibilité grâce un peu à ce qui se fait autour.
Mais je pense que la visibilité, dans un premier temps, enfin, le projet n'est pas de gagner en visibilité en allant là-dessus, mais plutôt de reprendre en pouvoir et en monétisation. Enfin,
Sur tes créas.
Ouais.
Est-ce que c'est un peu ce qu'a fait Pasquinade Haroun, je crois, non,
ouais,
derrière. Ouais, c'est Haroun. C'est un peu l'idée qu'il y a eu aussi derrière ça de comment on fait pour monétiser nos vidéos. Alors là, c'est vraiment dédié au monde de l'humour pour Pasquinade, où du coup, il est possible de faire des dons ou d'acheter les vidéos, il me semble.
C'est ça.
Donc, c'est un peu la même idée, mais de façon plus générale pour la création audiovisuelle, un peu tout style, quoi.
Ouais, et Pasquinade, en effet, au final, enfin, c'est pas que ça retombe dans les travers, parce que l'initiative est super, mais les humoristes qui sont dessus, c'est pas leur site, encore une fois, c'est Pasquinade, donc c'est comme une nouvelle plateforme, mais dédiée à l'humour. Mais moi, ce dont je rêve, c'est que chaque vidéaste, humoriste, ou je ne sais, créateur, créatrice, puisse avoir vraiment son site, et Pasquinade ne pourrait être qu'un catalogue qui rassemble plusieurs créateurs et qui pourrait se dire, OK, on met en commun un abonnement qui donne accès à toutes nos vidéos, mais moi j'ai ma plateforme quand même. Si tu veux t'abonner à mes créations, tu peux. Et je les monétise aussi d'une autre façon. Enfin, je sais pas, on pourrait imaginer que je fais un film, je le mets sur notre catalogue Les Parasites, mais tu peux aussi le regarder sur mon site Guillaume et il est à la location ou à l'achat. Enfin, tu as le choix de
Ouais, bien sûr.
où tu vas le regarder. Enfin, c'est une des possibilités que j'imagine.
Et du coup, c'est aujourd'hui, c'est un projet où tu partages beaucoup de vidéos, si je dis pas de bêtises, beaucoup d'interviews sur Démonopolisons
Sur Rouge et Bleu, du
et sur
coup.
Rouge Vert Bleu aussi, ouais, parce que tu
Ouais.
te sers des deux canaux.
Oui, Démonopolisons, c'est juste que je cherchais un mot pour essayer d'avoir un
Rassembler le
site
contenu.
qui documente un peu toutes nos recherches et tout. Et du coup, ce qui est cool avec les vidéos que j'ai pu faire sur Rouge Vert Bleu, c'est que j'ai pu rencontrer des développeurs. Et puis, du coup, on discute, on réfléchit ensemble de qu'est-ce qu'il faudrait. Et en attendant, là, j'ai construit un plugin pour WordPress, pour ceux qui connaissent, qui permettrait d'avoir un prototype fonctionnel de ce que j'imagine. Et du coup, prochainement, j'espère, je vais pouvoir l'installer sur Rouge Vert Bleu. Enfin, je vais me faire un site Rouge Vert Bleu. J'en ai déjà un, mais. Qui aura les fonctionnalités que j'imagine, même
Pour
pour les masterclass
diffuser.
de l'atelier 7, tu vois, avec notre résidence, on a filmé des masterclass et je m'étais dit, il faut les filmer parce que c'est du contenu trop cool. Et à la fois, au moment de les diffuser, je me suis dit, non, on va pas les mettre encore une fois sur YouTube, on va encore faire un cadeau à ces plateformes-là, surtout que je sais que ce genre de format vont pas faire énormément de vues. Je me dis, c'est l'occasion de tester, de les mettre ailleurs. Et du coup, on a mis que des teasers sur YouTube et puis on a mis les vidéos sur un site que j'ai fait à prix libre. Donc les gens peuvent payer ce qu'ils veulent pour eux. Et on a fait plus d'argent que.
Vous auriez fait avec de la pub
Ah
sur
bah
YouTube,
ouais,
ouais.
clairement, on aurait fait zéro sur YouTube, clairement. Alors que là, on a fait en 1 ou 2 ou 3 mois, je sais plus, 2 000 euros.
Ok.
Enfin, alors on n'a
Ouais,
pas
ouais
fait
mais
beaucoup
c'est.
de promos et tout. Et puis c'est pas notre objectif non plus de s'enrichir avec ce
Mais
truc-là, c'est pas l'idée. En plus, c'est des. Mais
c'est
c'était
juste pour
un.
montrer qu'il y a d'autres
Ouais, c'était
possibilités de
une façon
financement et
d'expérimenter autre chose et
bien
puis de
sûr.
se rendre compte que c'est possible. Et même à prix libre, les gens donnent. Donc c'est vrai que ça fait peur quand on a l'habitude de distribuer nos contenus gratuits, de dire on va demander
Aux gens de payer.
aux gens de payer, ouais. Est-ce qu'ils vont accepter et tout? Et pourtant, on a l'habitude de payer pour plein de choses.
Ouais, et puis au final, l'effondrement a été diffusé sur Canal, qui n'est pas non plus un média très accessible.
Ouais, c'est payant, ouais.
C'est payant et
Ouais.
c'est pas accessible à tous en termes de prix. Donc au final, vous aviez déjà fait un petit peu ce pas-là. Et bah en fait, quand le contenu est de qualité, les
Bah, il y a un
gens
moment quand tu as besoin
suivent,
aussi
quoi.
de faire de la qualité, ça demande des moyens et comment tu trouves ces moyens.
Ouais, forcément. Et alors justement, tu parles de l'atelier 7.
Oui.
Donc c'est l'idée de l'atelier 7, c'est une école. Dédié au monde de l'audiovisuel. Tu peux parler un petit peu du projet. Vous avez fait deux sessions pour
Ouais.
l'instant, c'est ça?
Oui. Bah, en gros, c'est. Nous, on dit plus que c'est une école parce que ça perturbe les gens. C'est une. Ouais, comme tu l'as dit, je crois, en intro, maintenant, on appelle ça une résidence démocratique de création
Exactement.
audiovisuelle. Et on trouve que le terme résidence est plus approprié parce qu'on a trop une image des écoles par rapport à notre éducation dans le système scolaire institutionnalisé. Donc ouais, c'est comme tu disais, c'est basé sur les écoles démocratiques dans le sens où il n'y a pas de programme, il n'y a pas de professeur. Et quand on a découvert ces écoles démocratiques-là, on s'est dit, mais ça serait tellement bien pour le cinéma, c'est-à-dire d'avoir un lieu avec du matos, tu viens et tu te formes par toi-même, tu fais un maximum. Nous, ça a vraiment été notre école de faire, de faire, de faire.
Du coup, l'idée, c'est de prendre un peu à contre-pied la formation que toi, tu as pu suivre, par exemple,
Ouais.
de dire, OK, il y a quelque chose d'autre qui est possible.
Ouais, c'est ça. Ou ça peut être vu comme, en effet, une alternative ou un complément. Tu
Parce que
pourrais
ça
très bien
s'adresse
faire
à
une
qui, du coup,
école.
l'atelier 7?
Bah, les sessions qu'on a faites, pour l'instant, on n'a fait que des sessions d'un mois. Donc, la première année, c'était dans un chalet dans les Alpes. La deuxième année, c'était dans un ancien monastère en Bretagne. Et pendant un mois, une espèce d'énorme colloque. paritaire, c'est-à-dire qu'on prenait autant de filles que de garçons, parce que c'est aussi un gros problème dans les écoles de ciné, même dans le milieu.
Ouais, dans le milieu tout court.
Il y a une majorité de... C'est très masculin. Et puis ça se reflète aussi dans les histoires, du coup, qui sont portées, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à casser, donc il va falloir le casser par un endroit. Donc c'est une des façons qu'on a trouvé de... d'y contribuer. Et ouais, et ça a super bien marché. Nous, la première année, on avait peur un peu de ce concept libre, genre, un peu autogestion, les gens font ce qu'ils veulent, et s'ils font rien, et s'ils se font chier, tu vois.
Et s'ils viennent
du coup, c'est pour ça qu'on avait prévu des masterclass, qu'on s'est dit, ouais, bah, t'as 48 heures en milieu de mois, hein, 48 heures en fin de mois. Au final, on a dû annuler le 48 heures en fin de mois parce qu'ils avaient trop de projets. Il y a eu, la première année, il y a eu plus de 30 courts-métrages qui ont été faits par 22 personnes en un mois. La deuxième année, il y a eu 40 courts-métrages qui ont été faits par 24 personnes en un
Putain,
mois.
C'est énorme.
Alors, ils ne sont pas tous finis, etc. Mais il y en a les trois quarts qui sont généralement terminés.
Sont bout,
et qu'en plus, on a diffusé en salle. On a fait un peu une projection de tous les courts-métrages qui étaient finis à temps à Paris. Voilà.
C'est trop cool.
Ouais, ça a super bien marché. Enfin, moi, j'aurais adoré ne pas être organisateur, mais être participant.
Et participer, ouais. Et parce que du coup, c'est destiné à des étudiants qui sont actuellement dans des formations d'audiovisuel, des gens qui travaillent déjà, des gens qui ont envie d'aller vers ça. C'est quoi un peu le public
Tout.
Qui a participé?
Non, il n'y a pas... nous, on ne demande pas on demande pas de CV, on ne demande pas de diplôme pour rentrer. On demande à voir ce qu'ils ont déjà pu faire ou les projets auxquels ils ont pu participer. Et après, en effet, pour ces sessions d'un mois, on a quand même privilégié des gens qui avaient déjà fait. On cherche des gens qui sont moteurs de leur propre projet, puisqu'on ne va pas être là pour leur dire quoi faire. Et puis, ce qu'on observe aussi des gens qui nous entourent et qui s'en sortent un peu dans leur création dans ce milieu, c'est des gens qui sont capables de porter leur projet par eux-mêmes. Et du coup... on essayait d'identifier un peu ces profils-là.
Il y a besoin d'être un peu débrouillard.
On ne veut pas être un stage découverte. On ne veut pas je viens pour voir si j'aime faire du cinéma. Non, on veut que tu sois sûr déjà d'aimer ça et ensuite viens. ces profils-là qu'on cherche. Que tu aies fait une école de ciné ou pas, que tu sois en train de travailler ou pas, peu importe. Même quel niveau technique tu as, peu importe, on cherche des gens qui ont bien compris le concept aussi, qui seront pas perdus, qui seront un minimum autonomes et tout pour naviguer dans.
Et l'idée c'est que malgré l'autonomie que vous leur demandez, vous êtes quand même là autour pour les guider, aider un petit peu. Comment ça se passe?
On s'est labellisé accompagnant-accompagnante. On était quatre pour chaque année, accompagnant-accompagnante. Je pense que c'était beaucoup, on aurait pu faire avec moins. Il y avait Nadja Hanan, qui est autrice, réalisatrice, chef-op, qui a beaucoup bossé dans le web. Il y avait Raphaël Descrac, qui est auteur, réalisateur, comédien. Il y avait Jérémy Bernard et moi. Voilà. Et du coup, ils pouvaient nous solliciter n'importe quand pour avoir un retour sur
dispo,
scénario ou technique ou je ne sais quoi. Et moi, je leur ai proposé, par exemple, de faire des petits ateliers remise à niveau, on va dire, technique, donc images, son, lumière, tout ça. Mais entre eux, ils se proposaient aussi des ateliers. Ça a encore mieux marché, je trouve, la deuxième année, parce que on avait plus confiance dans notre concept. On savait que ça marchait, on savait que les gens n'allaient pas s'ennuyer et qu'il y allait y avoir 1000 trucs qui allaient se passer. Et du coup, la deuxième année, il y a eu encore plus de projets qui ont été, enfin, d'ateliers comme ça qui sont nés des gens qui étaient là. Il y a eu une comédienne qui a proposé de faire un atelier sur ça, leur transmettre ce qu'elle savait, ou même faire des exercices de jeu, etc. Il y a aussi quelqu'un qui a proposé maquillage, effets spéciaux. Donc, ils se sont formés entre eux aux effets spéciaux. Ils savaient tous faire des cicatrices à la fin et tout, c'est trop cool. Il y en a une aussi qui avait ramené une caméra pellicule 16 mm, je crois, ou 8 mm, je sais plus.
Donc, comment bosser avec.
Elle leur a montré ce qu'elle savait et tout. Enfin, il y a eu vraiment un super entente. Et ce qui a été incroyable d'expérimenter, c'était justement ce qu'on a appelé, ce que je crois qu'ils appellent aussi dans les écoles démocratiques, des conseils démocratiques. C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, on essayait de tous se réunir pour discuter. Et l'idée, c'était que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse dire si ça allait, ce qui va pas, ses attentes, ses peurs, etc. Et ça a été... Et quand tu vis ça, tu te dis, mais pourquoi on n'a pas connu ça à l'école, pourquoi même dans les entreprises dans lesquelles on travaille, on n'y a pas ça et tout, c'est tellement bien. La moindre tension qui commence à naître et tout, les gens peuvent l'exprimer et puis tout le monde a envie de s'entraider pour résoudre les problèmes et tout. Et Vraiment, on a vécu dans une bulle d'utopie pendant un mois à chaque fois. C'était fou.
Incroyable. Ouais, parce que l'idée, c'est quand même, c'est un mois en fait de pure créa.
Ouais.
Où tout le monde est libre.
T'as que ça à faire parce que t'es hébergé nourri.
Ouais, il y a pas de planning de bon bah 10h, il y a une tel truc.
Bah du coup si, mais
c'est pas trop verrouillé quoi, c'est ça que je veux dire.
Il y a aucune obligation. C'est-à-dire nous, on a prévu quand même des dates pour les masterclass, mais si jamais tout le monde nous dit on sera pas là parce qu'on est en tournage, on va dire à la personne de pas venir ou on essaie de décaler. Si à chaque fois on essaie de sonder voir est-ce qui est intéressé par ces masterclass, parce que si personne n'y va, on l'annule, tu vois. Et il y a aucune obligation d'y participer. Mais du coup, on essayait de les mettre les matins, comme ça, on gâche pas les soirées. Et ouais, il y a eu plein de bonnes soirées aussi.
Et c'est assez intéressant, parce que du coup, vous avez fait ces deux sessions-là, ce qui en ressort est assez incroyable. Et du coup, c'est quoi la suite derrière ?
Bah, cette année, on n'en refait pas, parce que ça demande tellement de travail, de boulot, prépa et tout, c'est vraiment du don de soi pour nous, même si c'est trop bien à vivre. On a envie de mettre notre énergie à transformer l'idée à l'année. Donc on aimerait maintenant trouver un lieu à l'année en dehors de Paris, parce qu'à la base on pensait faire ça dans Paris, et finalement on se dit que ce serait aussi un des moyens pour nous de commencer
à sortir
de la capitale, à vivre ailleurs, et aussi d'avoir un lieu plus grand et plus accessible, parce que moins cher pour tout le monde, pour les participants. Et puis, ouais, de créer notre petit pôle cinéma, et puis ouvert à tous et à toutes hors de Paris, on aimerait bien. Et du coup, on envisage différents lieux, donc on se laisse...
un peu de temps pour trouver ça.
J'ai pas envie de faire promesse, mais j'adorerais qu'en 2023, on puisse lancer une première année, mais il faudrait d'abord qu'on trouve un lieu.
Faut trouver un lieu. Bon, alors, si vous avez un lieu, n'hésitez pas à contacter Guillaume.
Ça. Mais l'idée, ouais, c'est peut-être de faire une première année test dans un lieu, soit qu'on nous met à disposition, soit qu'on louerait. Et voir quand même, expérimenter le concept, voir quelles ressources humaines on a besoin et tout, quel job on doit créer pour que ça roule. Et puis ensuite de se lancer.
Et est-ce que l'idée, c'est de s'ouvrir aussi un petit peu à d'autres personas? Parce que si je dis pas de bêtises, c'est quand même des gens qui sont très orientés réa.
Auteur réal, ouais.
Auteur réa,
bah,
qui
on pense que, ouais, s'il y a des sessions. En effet, les sessions au mois, on a plutôt orienté ça. Mais si c'est à l'année, on pourrait s'ouvrir à plus de corps de métier, ouais. Et ça serait cool.
Ouais, d'avoir une sorte d'école où t'as autant les comédiens que les réals, que les ingé-sons, les prods.
Ouais, c'est ça.
Et comme ça, ça peut faire tout bosser ensemble équipes, et créer des vraies équipes.
Même si là, ça a créé des équipes. Hein.
J'imagine.
Ça a créé des colocs, ça a créé des assos, ça a créé des entreprises.
Ça a créé des colocs magnifiques.
Non, vraiment, c'était aussi le but, et c'était ça, nous, ce qu'on en avait tiré de l'école de ciné, c'est vraiment les rencontres.
Ouais, je pense que de toute façon, la plupart des gens, puis c'est mon cas, c'est le cas de Yann derrière, enfin c'est le cas de la plupart des gens que je connais qui sortent d'école, que ce soit audiovisuel ou autre d'ailleurs, en général, le seul enseignement qu'on a à la fin, c'est le réseau, plus que les cours qu'on a eu pendant l'année, quoi.
Ouais, c'est les potes avec qui t'as envie de continuer de faire, quoi. Et que c'est une force incroyable d'être entouré comme ça.
Ouais, ça a été votre force avec les Parasites.
Bah ouais. Clairement,
c'est de là que ça démarre et c'est là où ça continue des années plus tard, parce que c'était il y a combien de temps du coup votre formation? C'était il y a ça doit faire 7 ans,
c'est
10 ans,
je crois. C'est 7, en 10 2010 ans, la dernière année, je sais plus.
Ouais, donc ça fait 12 ans même. Ouais, okay, c'est beau. Ouais, donc c'est beau parce qu'il y a un beau parcours quand même de l'école, les premiers courts-métrages, les 24 heures. Les 48 heures, YouTube, une série produite sur Canal, une école. C'est une diversité, une résidence.
Non, mais on peut appeler école. Ouais.
C'est terrible, hein, j'ai dit école, je ne sais pas combien de fois.
Non, t'inquiète.
Mais
ça reste une école démocratique.
Super intéressant.
Ça reste une école démocratique. Mais même les personnes qui ont fondé les écoles démocratiques ou qui ont continué d'en créer disent que c'est un terme qui a été créé pour que les gens comprennent ce que c'est. Mais et encore, c'est vague. Mais en vrai, c'est pas une énième école alternative. C'est une alternative à l'école. C'est pas une école, c'est autre chose.
Voilà. Okay.
Et c'est pour ça que le terme de résidence nous plaît plus.
Okay. Ouais, et puis là, en plus, sur le format que ça avait jusqu'à présent, c'était très juste avoir le format que ça prend après, mais ça fait complètement sens d'appeler ça une résidence. Ouais,
ouais, c'est ça.
Trop bien.
C'est un lieu avec du matos, quoi. Et des passionnés qui sont là pour faire. Donc, et nous, on adorait qu'il y ait par exemple une bibliothèque, ce qu'on n'avait pas nous à l'école, mais une bibliothèque avec plein de livres sur tout et n'importe quoi. Parce que tu te rends compte qu'il y a plein de savoirs qui est disponible là, pas que sur Internet.
À la portée de la main. Et alors justement, ouais. S'il y avait un très belle très belle transition, s'il y avait un contenu que tu recommanderais aujourd'hui, que ce soit un livre, un podcast, une vidéo, pas forcément sur Internet, en DVD, mais s'il y a quelque chose que tu recommanderais...
D'aller piocher aussi dans les livres, parce que moi j'ai regretté d'avoir passé mon école de ciné sans ouvrir un seul bouquin, parce que j'avais cette croyance que le savoir allait que venir des professeurs. Un peu, on nous apprend ça, j'ai l'impression, à l'école. Enfin, le savoir, il se transmet professeur à élève. Et quand j'ai ouvert des livres après l'école, je me suis dit, mais on m'a rien appris de tout ça. J'étais vraiment frustré et énervé de me rendre compte à quel point il y avait 1000 choses à apprendre et qu'il y a 1000 choses qui ont déjà été transmises, expérimentées, documentées, théorisées et tout ça. Donc, si vous êtes passionné par n'importe quel sujet, vous trouverez un livre
qui va en parler. Ouais.
Ah ouais, ouais. Que ce soit dans la prod, que ce soit dans la réal, que ce soit dans la direction d'acteur, que ce soit dans le scénario. Au scénario, il y en a plein des livres qui parlent de scénario. Donc, je pense après, je sais pas s'il faut en recommander un, mais il y en a plein qui existent et dans lesquels on va plus ou moins se reconnaître. Et voilà. Après, c'est cool d'avoir commencé à expérimenter par soi-même, ensuite d'ouvrir ses livres et de faire « Ah ouais !»
En fait, c'est comme ça.
Bah, ou en fait, c'est pas comme ça, mais ça. C'est plus, ça donne des voies et des clés de compréhension et d'autant plus clair quand t'as déjà essayé par toi-même. Et du coup, quand tu lis les livres, tu fais « Ah ouais, je comprends... Je comprends mes erreurs, ou je comprends... Enfin, mes erreurs, même s'il n'y a pas une façon de faire, mais... je comprends... Enfin ouais, ça ouvre des voies dans la tête. Je pense qu'il faut même les lire plusieurs fois, ces livres. Pour après plusieurs saisir. Années, on relit, on fait... Ah ouais.
Il y en a un qui t'a marqué particulièrement dans ce que t'as lu
Directing Actors.
Okay.
De Judith Weston. Bah, j'en parle, Weston, je ne sais plus, j'en parle dans l'interview de Julie Cleary. Ouais. Ouais. Et ça, vraiment, la direction d'acteur, c'est vraiment un truc qu'on ne nous enseigne pas dans les écoles de cinéma, je crois. Okay. Enfin, moi, j'en ai pas connaissance. Ouais. Mais j'en ai pas eu. Et c'est tellement important. Enfin, c'est un des cordes à son arc qu'un réal doit avoir, quoi. Ça fait partie de son job de diriger les comédiens.
C'est une des problématiques que tu as vite eues, où tu t'es dit, attends, là, il y a un problème. Ça fonctionne non, pas parce que
je suis tombé dessus par hasard parce que j'étais dans une bibliothèque d'amis, et puis j'ai commencé à ouvrir ça. Et on m'a dit, bah, tu le veux? Je fais, ouais. Et puis c'était trop, trop, trop intéressant. Okay.
Et c'est là que tu t'es rendu compte de la palette, peut-être, mais ouais, de trucs
de
possibles.
Et surtout que ça a été aussi. C'est un vrai savoir-faire. Et que ça a été bien théorisé, et que ce serait con de ne pas lire ce que les gens ont compris, quoi.
Autant ne pas démarrer de zéro quand on peut avoir une aide, quoi.
Mais pareil, je pense que le fait d'avoir déjà été confronté à des comédiens et puis de lire ça, c'est encore mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire avant de se confronter. Hein. Et j'ai vraiment découvert la direction d'acteur avec ça, et après tu essaies de mettre en pratique et puis tu te rends compte que c'est trop bien, quoi. Donc ouais, et après évidemment les livres... sur l'écriture de scénario, la dramaturgie d'Yves Lavandier est super, je trouve super. S'il y a beaucoup d'exemples, moi qui suis inculte, j'ai pas une culture cinématographique énorme du tout. Je suis pas venu dans le cinéma pour ma cinéphilie, mais plus par mon amour de fabriquer des vidéos.
Ouais. Et de raconter des histoires.
Raconter des histoires, c'est venu en second temps. Ça a pris sens pour moi, c'était plus la technique qui m'amusait, etc. Et maintenant, je ne vois pas aucun intérêt à la technique autre que pour raconter des histoires, tu vois. Maintenant, c'est vraiment l'histoire qui prime, et est-ce que ça peut véhiculer, questionner, etc. chez les gens. Mais la dramaturgie d'Yves Lavandier, c'est ça que je veux dire, malgré les multiples exemples qui, moi, me parlaient pas forcément parce que j'avais pas vu les films, mais il y a beaucoup de théories qui m'a beaucoup nourri, ouais. Comme l'ironie dramatique. Qu'est-ce que l'ironie dramatique? Enfin, après, c'est des termes qu'on pose comme ça qui peuvent paraître pompeux, puis après, il te l'explique, puis tu fais, ah oui, ouais, c'est tout con, mais c'est trop. Enfin, c'est intéressant de mettre
un mot
dessus.
Ouais.
Ouais. Et plein d'autres livres. Bah, après, la Bible des Américains, c'est le guide du scénariste en français, c'est The Writer's Journey en anglais de Christopher Vogler, qui est vraiment... une fois que tu as lu ça, tu vois un film ricain et tu fais, ah ouais, d'accord, en fait, c'est vraiment la structure. Il la colle au max, et c'est abusé. Mais du coup, ouais, ça m'amène sur un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est... En effet, notre responsabilité en tant qu'auteur, autrice, et l'audience qu'on peut toucher potentiellement, et l'importance des histoires dans nos sociétés. Et du coup, on aide avec Jérém et d'autres à une initiative portée par une résidence d'écriture qui s'appelle le Groupe Ouest. Et ils ont lancé un groupe de recherche entre scénaristes et chercheurs qui s'appelle le Story Tank. Et n'hésitez pas à aller voir cette chaîne YouTube qui s'appelle le Story Tank.
Où vous êtes réal, du coup.
Ouais,
du
on réalise les contenus et on fait les interviews des scénaristes. C'est trop bien. Et du coup, on rencontre des scénaristes expérimentés qui ont 20, 30, 40 ans de carrière. Et c'est trop intéressant. On leur pose des questions, nous, de jeunes débutants, tu vois. On arrive, on leur demande des trucs et c'est trop, trop bien. Et ouais, non, c'est vraiment un peu... Ça part un peu du constat qu'on se serait un peu fait coloniser par Hollywood dans la façon de raconter les histoires et que si on prend un peu de recul sur nos sociétés et qu'on voit à quel point on est en train de foncer droit dans un mur pour la survie de la vie sur Terre, qu'il y a peut-être une responsabilité aussi dans les histoires qu'on se raconte, parce que tout n'est qu'histoire, et tu te rends compte que si on fait société, c'est parce qu'on se raconte des histoires communes, etc. Et du coup, il y a une vraie importance sociétale et politique à notre métier.
À chaque contenu, ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, le Story Tank questionne ça et essaie de trouver d'autres façons de raconter des histoires. Et c'est hyper intéressant. On a eu des interviews incroyables, dont un griot sénégalais. Tu vois, on essaye aussi d'aller chercher... Enfin, ils essayent parce que nous, on ne fait que filmer, mais d'aller chercher d'autres savoir-faire, d'autres cultures et d'autres visions de...
Ouais, parce que le cinéma est complètement différent d'un endroit à l'autre.
Ouais. Et je pense aussi le fait qu'on, comme je dis, on se fait coloniser par Hollywood, c'est que j'ai l'impression que peut-être les pays latins, je sais pas si c'est propre aux pays latins, je suis pas du tout anthropologue ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on a une espèce de, je sais pas, de fantasme de ce qu'est l'art, et que l'art c'est un peu t'es inspiré ou tu l'es pas, t'as du talent ou tu l'as pas. Et que les anglo-saxons sont moins là-dedans, et du coup, ils n'hésitent pas à théoriser, à trouver des méthodes, etc. Et bah, leurs méthodes, on les a appliquées malgré nous, dans le sens, les seuls bouquins qui ont vachement théorisé, c'est les leurs. Et puis, les histoires qui dominent aujourd'hui viennent de là-bas, et du coup, impactent notre façon de raconter aussi, puisqu'on a l'habitude de voir ces histoires-là, et on répète les schémas inconsciemment. Et du coup, ça questionne ça. Est-ce qu'il faut pas, qu'on arrive à se décoloniser, à raconter autrement les histoires, et ça pose aussi la question des sujets et qu'est-ce qu'on doit raconter, quoi.
Voilà. Et alors, du coup, est-ce que ça t'amène à tes prochains projets, ou justement, du coup, maintenant, tu te poses un million de questions.
Ah ouais, je me pose une question.
Comment on va faire? Où est-ce qu'on le diffuse? Qui nous le produit? Qu'est-ce qu'on va raconter? Quelle responsabilité on a derrière ce contenu? Même derrière l'effondrement, il y a une volonté un petit peu de dire attention où on va. Il y a une question un peu peut-être
un
politique ou voilà. Ouais. C'est pas un contenu juste pour dire ok, faisons un truc un peu apocalyptique,
un truc cool.
qui va faire de la vue. Et...
Ah ouais, non, clairement, nous on avait envie de faire cette série parce qu'on avait envie de la voir. On avait envie de voir une série qui traite de ce sujet-là. Et comme on était un peu plongé dans toutes ces idées, ces thèmes, ça nous semblait important de mettre en avant ces théories de l'effondrement qu'on voyait émerger, mais qui sont là depuis longtemps, hein, en fait. C'est juste qu'on en parle peu parce que ça fait flipper et que ça remet en question beaucoup trop de choses, beaucoup trop profondes dans nos sociétés pour être changées en un clic, quoi. Que on avait envie de se faire peur un peu. Mais de comme faire vivre, parce que finalement, les histoires, c'est des vies par procuration qu'on se donne. Et du coup, de se faire vivre collectivement la fin. Enfin, genre, pas la fin. Pas la fin, mais genre un effondrement, de montrer à quel point notre système peut être fragile et tout, et de se dire, et si ça arrivait, maintenant,
comment ça pourrait se passer, ouais.
Ouais, comment ça pourrait se passer. Et puis c'était un peu un cri d'alerte de dire, attention, on risque ça, même si évidemment, pour un souci narratif et d'accrocher le spectateur, on a fait un effondrement très rapide, quoi. Même si c'est jamais expliqué dans la série, on imagine que du jour au lendemain, il n'y a plus de pétrole en France, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ça montre bien notre dépendance au pétrole, et puis on sait que c'est une ressource qui va disparaître.
Qui va manquer, ouais.
Ouais, même si certains peuvent dire qu'on a déjà dépassé le pic de production, ça va faire que... Puis là, on voit les prix qui grimpent. Alors, c'est lié à d'autres problèmes
sujets,
géopolitiques.
Oui,
mais ouais, c'est un avant-goût qu'on a de à quel point la vie va devenir de plus en plus difficile. Et puis on le voit avec les dérèglements climatiques, c'est pas juste les ressources. Mais... Donc ouais, c'est... Nous, on flippe, on est assez pessimiste sur tout ça, et c'était une façon de pousser un cri, ouais.
Et est-ce que du coup, ça, les prochains projets vont être dans cette ligne-là, un petit peu, ou Bah, est-ce que déjà il y a des prochains projets qui sont prévus? Parce qu'il y a tellement de trucs en cours entre l'atelier 7, etc.
Ouais, c'est vrai qu'on s'éparpille.
Faut trouver le temps, mais.
Bah, on essaye d'écrire, ouais. On essaye d'écrire des longs.
Okay.
Et oui, clairement, moi, en tout cas, j'ai envie de. Enfin, après le pessimisme qu'on a mis dans l'effondrement, on a envie de trouver de l'espoir parce qu'on a du mal à en voir. Et du coup, nous, on aimerait voir des films qui nous donnent espoir. Donc, on. Ce qu'on essaye d'écrire en ce moment.
Ouais. Ok. Ok, donc il y a pas mal de nouveaux projets qui se présentent à vous. Pour l'instant, rien d'écrit dans le marbre. Et puis on peut du coup vous retrouver sur l'atelier 7 qui sera sûrement bientôt dans un endroit physique à l'avenir. Et puis continuer à te suivre sur la chaîne Rouge Vert Bleu.
Ouais.
Et sur la chaîne des Parasites. En tout cas, merci beaucoup.
Bah,
Guillaume,
merci à toi pour
ton temps. C'était super intéressant. Et puis j'espère à très vite.
Bah ouais, avec plaisir.
Merci. Ciao.
Salut. Ciao.